nous a parlé de l'itinéraire spirituel de notre mère Sainte Thérèse. Avec, il a parlé de d'où elle venait, son expérience du péché, et ensuite de son expérience du salut. De toute façon, son expérience du salut, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Quand vous voyez la vie de notre mère Sainte Thérèse, quand vous voyez son intimité avec Jésus, vous vous dites qu'il a dû se passer quelque chose, vu d'où elle venait. La vie de notre mère Sainte Thérèse, le Seigneur l'a façonnée de telle manière à ce que on voit l'œuvre de Dieu en elle de manière éclatante. Et c'est pour ça qu'à certaines périodes de sa vie, elle ne pouvait pas faire un petit instant d'oraison sans entrer en extase et que ça se voit. Tout ça pour nous manifester à nous tous, qui, je pense, pour la majorité d'entre nous, n'avons pas des extases, disons au moins de manière aussi fréquente que notre mère Sainte Thérèse, de telle manière à ce que nous réalisions la merveille que le Seigneur réalise à chaque fois que nous prions. Quand nous prions, certes, nous n'avons pas d'extase, mais le Seigneur est tout aussi agissant et tout aussi uni à nous que si nous avions les extases de notre mère Sainte Thérèse. Les extases de notre mère Sainte Thérèse, ses visions, ses paroles, sont en grande partie ordonnées pour que nous comprenions la beauté du mystère de la prière. La beauté du mystère de la prière. Parce qu'évidemment, quand vous voyez une extase, bon, vous n'osez peut-être pas forcément vous l'avouer, mais bon, ça vous fait un peu envie. Quand vous lisez les visions de notre mère Sainte Thérèse, peut-être vous vous dites, non, vous n'osez pas vous le dire que ça vous fait un peu envie, mais enfin, quand même. Moi, je vous avouerai, quand j'ai découvert notre mère Sainte Thérèse, quand j'étais en maths sup, ce qui m'a fasciné chez elle, c'est qu'elle avait une relation avec Jésus qui allait dans les deux sens. Non seulement elle parlait à Jésus, ça je savais faire, mais Jésus lui répondait. Et ça, à cette époque-là, il me semblait que ça m'intéressait parce que je ne me sentais pas encore très, très concerné. Que je parlais beaucoup à Jésus, il n'y avait pas de problème, mais que j'attendais un peu la réponse, quoi. On va en parler. Parce qu'évidemment, Jésus me répondait déjà. Et c'est ça qui m'a fait envie. Et les visions de notre mère Sainte Thérèse, c'était un langage que je pouvais comprendre, sans explication. Je voyais, Jésus lui parlait comme moi je vous parle en ce moment. Et ça, je pouvais comprendre. Donc, je me disais, oui, il y avait vraiment une relation à double sens. Et ça, j'y aspirais de toutes mes forces. Même si je n'avais pas encore tout à fait compris que cette relation à double sens, elle ne se passe pas forcément, même pas habituellement, sur ce régime des visions et des paroles intérieures. Mais elle est bien à double sens. Alors, on voit cette intimité du Seigneur avec notre mère Sainte Thérèse. Comment elle s'est réalisée ? Comment elle s'est réalisée ? Thérèse a une phrase choc. De l'oraison me sont venus tous les biens. De l'oraison me sont venus tous les biens. Et au début du livre des demeures, à deux reprises, elle dit « La porte du château est l'oraison ». Ça, c'est première demeure. Deuxième demeure, « La porte du château est l'oraison et la considération ». Tout vient par l'oraison. Alors, on va commencer, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette oraison. Parce que c'est intéressant, si tout nous vient par l'oraison, ça peut être intéressant de s'y mettre. Mais pour ça, on sera d'autant plus motivé qu'on aura compris qu'est-ce qui se passe à l'oraison. Et si on comprend qu'est-ce qui se passe à l'oraison, on va aussi pouvoir mettre beaucoup mieux en œuvre ce conseil de Sainte Thérèse. La porte du château est l'oraison. Alors on va regarder, pour commencer, on va regarder Thérèse en train de prier. Donc au chapitre 26 du chemin de perfection. Elle s'adresse à ses sœurs. Si vous êtes dans l'épreuve, mes sœurs, ou tristes, considérez Jésus en route vers le jardin des Oliviers. Quelle profonde affliction dans son âme, puisque lui, l'endurance même, il l'exprime et s'en plaint. Vous pouvez aussi le regarder attaché à la colonne, tout douloureux, ses chairs déchirées pour l'amour de vous. Ou regardez-le chargé de la croix, dont le poids l'empêchait de respirer. Il vous regardera, lui, de ses beaux yeux si compatissants, pleins de larmes. Il oubliera ses douleurs pour vous consoler des vôtres, à seule fin que vous cherchiez votre consolation près de lui. Ô Seigneur du monde, votre véritable époux, mon véritable époux, voici ce que vous pouvez lui dire. Si le cœur attendri de le voir dans un tel état, vous voulez non seulement le regarder, mais soulager votre âme en lui parlant. Point en disant des prières toutes faites, mais des paroles jaillies de votre cœur en peine, ce qu'il prise hautement. Êtes-vous dans une telle misère, mon Seigneur et mon bien, que vous admettiez la pauvre compagnie qu'est la mienne, et que je puisse lire sur votre visage que ma présence vous a consolé ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Thérèse, au départ, elle dit à ses sœurs, ben voilà, si vous êtes triste, regardez Jésus, considérez-le, un mot clé du vocabulaire thérésien, considérez-le. En espagnol, c'est le verbe mirar, regarder, un verbe très 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 courant, mais qui, dans le vocabulaire de Thérèse, a un rôle, a un sens très précis. Alors, tantôt, c'est simplement regarder, comme là, je suis en train de vous regarder. Mais tantôt, c'est ce qui est traduit par considérer. Quand on est dans l'oraison, quand Thérèse utilise ce verbe regarder, en fait, généralement, c'est traduit par considérer. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qui lui permet de se tourner vers Jésus qui est là, en train de souffrir sa passion ? C'est la foi. C'est la foi. La foi. La considération, c'est regarder par la foi. Qu'est-ce qui est la base de l'oraison ? Qu'est-ce qui est la base du recueillement ? C'est la foi. Regarder par la foi. C'est du bon sens. Vous le faites, c'est comme Monsieur de la Palice. Vous, quand vous priez, vous vous tournez, vous n'y pensez même pas. Vous commencez par vous tourner vers le Seigneur auquel vous allez vous adresser. Qu'est-ce qui vous permet de vous tourner vers le Seigneur ? Vous assurez qu'il est là, parce que vous n'allez pas, vous n'êtes pas fou, vous n'allez pas faire un soliloque, parler au mur. Vous parlez à quelqu'un, vous parlez à Dieu. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il est là ? C'est là. Super. La foi. Et est-ce que Sainte Thérèse, dans le long passage que je vous ai lu, est-ce qu'elle s'en tient là ? Elle commence par dire, un peu froidement, entre guillemets, parce que Thérèse, elle n'est jamais vraiment froide, mais elle commence par dire à ses sœurs, voilà, considérez-le au jardin des Oliviers, etc. Et elle, je ne sais pas si vous avez remarqué, en écrivant, elle commence à le considérer. Elle commence à regarder Jésus. Et du coup, en fait, elle commence à prier sous nos yeux. C'est quelque chose de très original du style de Sainte Thérèse. Ça fait partie de son charisme de mère des spirituels. C'est qu'elle ne s'en rend même pas compte, mais elle prie sous nos yeux. Donc c'est génial. Ça nous montre comment prier avec sous les yeux. Vous voyez, vous rentrez dans la prière de Sainte Thérèse. Et donc elle commence à considérer Jésus. Et là, alors là, on voit, il y a la plume qui commence à s'agiter, à s'agiter, à s'agiter. Et puis, elle prie. Ô Seigneur du monde, mon véritable époux. Alors là, elle réalise à ce moment-là, oulala, je suis en train de glisser. Je m'adresse plus aux sœurs, je suis en train de prier Jésus. Alors elle fait une petite parenthèse. Voici ce que vous pouvez lui dire si le cœur attendrit de le voir dans un tel état, etc. Et puis bon, une fois la parenthèse terminée, elle repart. Et qu'est-ce qui meut Thérèse, qui regarde Jésus, qui le considère par la foi, qu'est-ce qui fait qu'elle commence à déborder comme ça, de manière effusive ? C'est l'amour. L'amour, l'amour. Évidemment, s'il y a l'amour, un amour selon Dieu, l'Esprit Saint est jamais loin. C'est l'amour, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'oraison pour notre Mère Sainte Thérèse ? C'est croire pour aimer. C'est je considère par la foi pour éveiller un amour et un amour surnaturel. Un amour surnaturel. Croire pour aimer. Ça, c'est le cœur de l'oraison selon Sainte Thérèse. Du moment que je crois pour aimer, Eh bien, je fais oraison pour Sainte Thérèse. Ce qu'elle appelle le recueillement. Du moment que je crois pour aimer, je suis recueilli. Alors, maintenant qu'on a compris un peu qu'est-ce que c'est que l'oraison pour Sainte Thérèse, pour bien comprendre ça, il faut replonger, il faut nous plonger dans l'Évangile. L'oraison, c'est pas, on va voir, c'est pas un espèce d'à côté. Sainte Thérèse, elle n'est pas en dehors de l'Évangile. C'est pas une voie parallèle de l'Évangile. Mais c'est une expérience de la vie selon l'Évangile, avec certains accents inspirés par l'Esprit-Saint. Mais c'est mettre en œuvre l'Évangile. Il n'y a rien d'autre. La vie chrétienne, c'est simplement vivre selon l'Évangile, point. D'où la nécessité, qu'on fait l'introduction il y a 2 jours, d'avoir toujours sa Bible dans la poche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez, ça a suscité quelques vocations d'aller acheter une petite Bible ou un petit Nouveau Testament pour mettre dans votre poche, vous voyez. Ça tient très bien dans une poche, ça va impeccable. Mais si la vie chrétienne, c'est la vie selon l'Évangile, il est vital d'avoir toujours l'Évangile à portée de main et de le lire tous les jours. Ça ne peut pas être autrement. Bien. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de l'Évangile ? Qu'est-ce qui est au cœur de l'Évangile ? Qu'est-ce que Jésus ? Est-ce que vous avez déjà remarqué, quand Jésus est face à quelqu'un, on a l'impression qu'il a une seule idée. Il veut éveiller la personne en face à une chose, à une réalité. Vous voyez de quoi il pourrait s'agir ? Quand un malade arrive et il vient devant Jésus, bon, genre il est aveugle, Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bon, bah, on peut imaginer, Jésus il voit qu'il est aveugle, il va deviner. Hein ? Mais en fait, il veut susciter quelque chose. La foi, toujours la foi, toujours la foi. Le Verbe s'est incarné pour nous donner la foi. Pour nous donner la foi. Et pourquoi ? Alors là, je vais vous lire 1 ou 2 versets de base de l'Évangile. La fin de l'Évangile selon saint Jean, la première conclusion, Jean 20, 31. Ces signes ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ont été mis par écrit, pourquoi ? Pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et est-ce qu'on s'arrête juste à la foi ? Non. Pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dieu s'est incarné pour que nous ayons la vie. Et comment nous allons accueillir cette vie ici-bas ? Par la foi en Jésus, Fils de Dieu, mort pour nous sauver. C'est le cœur. Tout est là. Croire en Jésus pour recevoir la vie. Et l'effet de la vie, ça va être l'amour. Et donc là, vous retrouvez croire pour aimer. Comment j'accueille la vie que le Seigneur me donne, cette vie qui a pour nom l'Esprit-Saint, en croyant en Jésus. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, quand Jésus meurt sur la croix et que le légionnaire, le centurion, perce le côté, saint Jean précise, il en jaillit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage et celui-là qui sait qu'il dit vrai. Alors on se dit, mais pourquoi ? Donc on a la formule en fait d'un témoignage solennel avec 2 témoins. Celui qui a vu rend témoignage, premier témoin, et celui-là sait qu'il dit vrai, 2e témoin. Donc c'est vraiment la formule du témoignage solennel dans la Bible. On se dit de faire un témoignage solennel pour le fait qu'il y a du sang et de l'eau qui sont sortis du côté de Jésus, bon, bien, mais enfin, c'est peut-être pas essentiel, quoi. C'est peut-être un peu secondaire. Si, c'est essentiel pour saint Jean, parce que le sang et l'eau, c'est le signe, le sang de la vie. Jésus, en mourant sur la croix, il donne sa vie et il nous la communique. Et l'eau, c'est l'eau de la pénitence, du pardon des péchés. L'eau du pardon des péchés. Quand je me tourne vers Jésus par la foi, en le reconnaissant comme mon sauveur, oui, après le côté chacha, j'ai le côté évangélique américain, hein, mon sauveur personnel, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, en le reconnaissant comme mon sauveur et mon sauveur personnel, j'accueille sa vie, j'accueille l'Esprit Saint. Le but de notre vie sur terre, il n'y en a pas d'autre, c'est d'accueillir la vie de Dieu. Et si j'ai accueilli cette vie de Dieu sur terre, alors je vivrai dans l'éternité avec lui, le ciel. Le but de la vie sur terre, c'est la préparation au ciel, rien d'autre. Et comment on s'y prépare? En croyant en Jésus pour recevoir la vie, l'Esprit Saint. Alors maintenant, vous comprenez que le recueillement de notre Mère Sainte Thérèse, finalement, c'est que la mise en œuvre de ce qui est au cœur de la vie chrétienne. Rien d'autre. Croire pour aimer. Croire pour recevoir la vie et l'effet de cette vie divine en moi, c'est d'aimer. Rien d'autre. Tout est là. Quand Thérèse dit « la porte du château, c'est l'oraison », elle fait en fait que reformuler dans ces termes le kérigme. Rien d'autre. Rien d'autre. Quand elle dit « de l'oraison me sont venus tous les biens », ben oui, normalement, c'est normal. L'oraison, c'est croire, et en croyant, je reçois la vie qui me sauve, qui me transforme. Vous voyez la logique, c'est extrêmement cohérent. Alors, ayant bien compris ça, on va pouvoir passer aux conséquences pratiques. Si on a bien les fondements, eh bien on va voir comment ça va pouvoir se déployer dans notre vie. Alors, première conséquence pratique. Bah, si c'est ça, l'oraison, hein, si c'est croire pour aimer, eh bien je vais me dire, mais attends, ça serait dommage que je m'en prive un seul instant dans ma vie. Hein? Si bah, le but de ma vie sur terre, c'est de recevoir cette vie de Dieu et que ça se fait par la foi, bah, il faut qu'à chaque instant, je ne perde pas une minute, hein, qu'à chaque instant, eh bien, je m'applique à croire. Ça, c'est la première chose. Alors, ça va comment s'appliquer à croire? Alors, je vous prends l'enseignement de notre Mère Sainte Thérèse. D'abord, bah, ce n'est pas évident de croire pour aimer. Et quand on est pris dans l'activité de la journée, vous avez remarqué, on n'y pense pas forcément. Hein? Et puis, ce n'est pas toujours facile. D'où l'idée de prendre tous les jours un temps où on va s'exercer uniquement à ça. Et ça, ce temps, c'est ce qu'on appelle au Carmel le temps d'oraison, vital. Hein? Quand vous faites, quand dans votre journée, vous utilisez les muscles, hein? Bon, c'est bien. Mais ben, un peu en désordre, etc. Si vous voulez devenir super costaud, avec voilà, super abdominaux et tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller en salle de musculation. J'adore parler de ça, moi qui ne mettrai sûrement jamais les pieds de ma vie. Hein? Vous allez en salle de musculation, où là vous allez soigner vos muscles, votre tablette de chocolat, hein, pendant une demi-heure. Et moyennant quoi, après, vous en profiterez plus dans la journée, vous serez plus costaud. Vous voyez? Bon, ben, l'oraison, c'est exactement pareil. Hein? C'est un aspect de l'oraison. Vous allez, ben oui, on va s'exercer. Et donc, on va prendre un temps qui est consacré uniquement à ça. Qui est consacré uniquement à ça, à croire pour aimer. Rien d'autre. Évidemment, l'oraison, c'est pas que, et même c'est pas d'abord un temps d'exercice. L'oraison, c'est d'abord une rencontre avec quelqu'un. Quand je me tourne par la foi vers Jésus, je le rencontre. Je le rencontre. Et donc là, ça va nous donner une raison beaucoup plus profonde et beaucoup plus belle que mon image de la salle de muscu. C'est que c'est le temps que je prends avec mon ami. Si j'ai un ami, je passe du temps avec lui. Et j'accepte de perdre du temps avec lui. Ce n'est pas un ami, quelqu'un que je supporte que quand je fais autre chose. C'est un compagnon de travail. Mais pour, voilà, bah, vous, on a presque tous hein, dans cette salle, je pense, l'expérience du travail. On voit bien qu'il y a une différence entre un collègue de travail et un ami. Un collègue de travail, on est content d'être lui, avec lui quand on fait autre chose au travail. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va l'inviter chez soi. Eh bien, Jésus, il aspire dans nos vies à ne pas être simplement un collègue de travail, mais être vraiment un ami. Et donc, il faut l'inviter chez lui. Et donc, chez nous. Il faut l'inviter chez nous. Et donc, prendre du temps avec lui. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? C'est parce qu'il y a quelque chose qui me fait toujours un petit peu de peine. C'est quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui disent « Oh oui, oui, moi je prie, de toute façon, je prie tout le temps. » Bon, super, vous priez tout le temps, je ne peux que vous recommander ça, justement. C'est dans la ligne de mon topo. Mais en fait, je ne prends jamais de temps avec lui. Hein? Je pense à lui tout le temps. Mais je ne prends jamais 5 minutes, rien qu'avec lui, sans faire autre chose. Ben, vous avez bien commencé, c'est un bon début. mais il ne faut surtout pas vous arrêter en cours de route. Pour l'instant, Jésus est un bon collègue de travail. Maintenant, il faut qu'il aspire, lui en tout cas, il aspire à devenir votre ami. Et donc pour ça, il faut que vous l'invitiez chez vous et que vous preniez un petit temps d'oraison. Peut-être 10 minutes, juste 10 petites minutes d'oraison. Ça fera tellement plaisir à Jésus, mais tellement, tellement, tellement plaisir. Ça fait des années qu'il est votre bon collègue de travail et qu'il attend désespérément qu'enfin vous l'invitiez chez vous. Temps d'oraison. Alors, je continue sur le temps d'oraison. Après sa nécessité du temps d'oraison, qu'est-ce qu'on va y faire ? Croire pour aimer. Tout est là. Croire pour aimer. Alors, la première chose, et je vous avouerai que s'il y en a quelques-uns parmi vous qui retiennent ce que je vais vous dire maintenant, eh ben, je compterai que ce petit topo, il est gagné. C'est vous tourner vers Jésus. Alors là, fait petit partage. Il y a quelques années, donc bon, l'exercice de la présence de Dieu, dont je ne vais pas tarder à vous parler, c'était le fond de ma spiritualité pendant des années et des années, même avant de rentrer au Carmel. Mais je me tournais vers Dieu en général. Et puis, il y a quelques années, j'étais déjà au Carmel depuis un certain temps, en entendant Sainte Thérèse insister sur « tournez-vous vers la sainte humanité de Jésus, la sainte humanité de Jésus, la sainte humanité de Jésus », à force, je commençais à me poser la question. Parce que moi, Jésus, dans ma vie, oui, il avait une place, bien sûr. Bon, il y avait l'Eucharistie, ça c'est vrai. Mais en dehors, bon, quand mon exercice de la présence de Dieu, je me tournais vers Dieu en général. Bon, c'était bien, hein. Et mais elle insistait tellement, et c'est vrai que je ne pensais pas tellement à Jésus en tant que tel au cours de mes journées. Mais elle insistait tellement, je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même essayer. Alors, j'ai pris la résolution, à l'essai, pendant quelques semaines, de remplacer, entre guillemets, Dieu par Jésus. Jésus est Dieu, hein, c'est pour ça que je dis remplacer, entre guillemets. Hein. Mais de me tourner vers Jésus à travers la sainte humanité, vers Dieu à travers la sainte humanité du Christ. Et donc, quand je me tournais vers Dieu dans mes journées, je faisais l'effort de me tourner vers Jésus. Ce qui me demandait au début un certain effort, hein, ça, c'est vrai. Mais pour quel bénéfice ? Hein, quelques semaines avec un petit effort, bon, pas énorme quand même, il ne faut pas exagérer, mais un bénéfice, mais incroyable, incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Acte 4:12. Il n'y a pas d'autre nom, celui de Jésus, Jésus sauve, Jésus ça veut dire Dieu sauve, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Celui qui nous sauve, c'est Jésus glorifié, mort sur la croix et ressuscité pour nous sauver. Il n'y a pas d'autre nom. Alors, pour une petite image, pour vous compreniez l'opportunité de nous tourner explicitement vers Jésus. Jésus, c'est la fontaine du salut sur notre terre. L'humanité glorifiée de Jésus, qui est présente de manière éminente et complètement unique, inimaginable dans le Saint-Sacrement, c'est l'unique fontaine du salut. L'unique source de l'Esprit-Saint dans notre monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est deux fois, hein. Il n'y en a pas d'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vais chercher le salut en Dieu en général ? C'est très bien, hein. Il faut pas, je ne suis pas là pour vous stresser. Mais en fait, je vais boire aux flaques qui ont débordé, vous voyez. Alors que j'ai la fontaine qui est sous les yeux, là, qui jaillit à plein tube. Et moi, par ignorance, je vais aller essayer de récupérer un peu d'eau dans les flaques. Inutile de vous dire que si vous alliez directement au tuyau d'où jaillit la fontaine, vous allez vous en trouver le bénéfice. Et quel va être ce bénéfice ? Là, un peu mon expérience. C'est que ce que j'ai vu, c'est qu'en allant à l'humanité de Jésus, j'avais ma propre humanité qui était transformée. Il y a besoin d'une humanité pour transformer la mienne. Quand je vais simplement à Dieu en général, d'une certaine manière, je laisse un peu entre parenthèses les constituants les plus incarnés de mon humanité. Mon corps, ma psychologie, tout ça. Il reste un peu sur le côté, vous voyez. Hein, c'est un très bon début, hein, mais il reste un peu sur le côté. Quand je vais à Jésus, Jésus dans son humanité glorifiée, elle a des bras qui peuvent me serrer. Et du coup, mon humanité, en venant en contact avec la sienne, elle est transformée, et transformée en profondeur. Et je fais cette expérience du salut, qui me transforme de l'intérieur. Et ça, ça a été l'expérience vitale de Sainte Thérèse. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle commence à faire oraison ? Je lis une petite phrase de la vie. Ce fut une grande chose pour moi que Dieu m'ait accordé dans l'oraison la grâce qu'il me fit. Elle me fit comprendre ce que l'aimer signifie, car peu de temps après, je vis en moi des vertus nouvelles. Il y a deux manières d'accueillir les vertus, d'acquérir les vertus. Il y a la première manière, les vertus, c'est des qualités et des bonnes habitudes, si vous voulez. Comment on acquiert une bonne habitude ? C'est en répétant les actes des habitudes en question. À force de dire la vérité, vous prenez l'habitude de dire la vérité. Ça vous devient plus facile. Bon, évidemment, c'est un peu séance salle de muscu encore. Parce que chaque acte... Alors évidemment, vous êtes soutenu par la grâce. Donc à chaque acte bon, soutenu par la grâce, vous construisez petit à petit l'habitude bonne, la vertu. C'est très bien. C'est nécessaire. On fait ça, tous. Ça nous concerne tous. Mais il y a un deuxième régime. Le régime chrétien fondamental, ce n'est pas celui-là. Le régime chrétien fondamental, c'est celui dont Thérèse fait l'expérience. Elle se tourne vers le Christ qui transforme son humanité et met directement des qualités en elle. Je vis peu de temps après, où elle commence à faire oraison, je vis en moi des vertus nouvelles. Elle fait cette expérience que j'ai cette capacité-là que je n'avais pas avant et que je n'ai jamais exercée avant. C'est fou ça. Le Seigneur, il rêve de mettre directement des qualités dans notre cœur. C'est quand même fou ça. Vous y avez déjà pensé ? Je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont jamais pensé dans leur vie. Ce qui est quand même, moi qui me fait de la peine, parce que c'est le cœur, si vous voulez, du salut. Le cœur du salut, ce n'est pas d'abord d'en baver. Le cœur du salut, c'est Dieu qui me sauve et qui me transforme de l'intérieur, c'est ça. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que le salut, ça va être se poser dans sa chaise longue et d'attendre. Non. Rassurez-vous, on va avoir quelque chose à faire. Je vis en moi des vertus nouvelles, encore très trop faibles cependant pour me maintenir dans la justice. Au début, en général, 99 fois sur 100, ces petites vertus, je les vois là dans mon cœur. Le Seigneur, il me met directement. Je me suis tourné vers lui par la foi, et il a commencé à me sauver, à mettre ses petites vertus. Mais attention, elles sont toutes petites, parce que le Seigneur, il est très timide. Il ne veut jamais s'imposer. Il ne veut jamais donner quelque chose sans qu'on ait dit oui. Alors, pour l'histoire des vertus, il les met, et puis il voit l'effet que ça nous fait. Est-ce qu'on est content ou pas ? Si on dit, il les met juste de manière très discrète, comme ça. Je vois, et il attend avec un peu d'inquiétude, comment il va réagir. Il voit que je... Et alors, premier truc, je réalise, j'ai cette petite capacité que je n'avais pas avant. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais la mettre en œuvre, ce qui va me demander quand même un petit effort, ou pas ? Si je la mets en œuvre, c'est la manière pour moi de dire oui au Seigneur, à son don. Et du coup, le Seigneur, il va pouvoir continuer à faire grandir ce don, à faire grandir cette qualité. Si par contre, je la vois et je dis « je préfère ma vie avant sans la vertu », le Seigneur, il retire ses billes, Mais par contre, rassurez-vous, il est plein de miséricorde. Et donc, il réessayera. Et ce n'est pas parce que la semence, elle n'a pas pris quand il l'a mis la première fois, qu'il renoncera à remettre une semence au même endroit après avoir un peu biné le terrain, Le Seigneur, il est très patient, très miséricordieux. Pour que nous comprenions bien ce que le Seigneur attend de nous pour cet accueil des vertus, je vais vous donner un exemple qui est tiré de la vie de la petite Thérèse. C'est la conversion de la petite Thérèse à Noël 86, qui à mon avis est une très bonne illustration de ce que j'essaie de vous dire. C'est une histoire de salut, la conversion de Thérèse à Noël 86. Thérèse nous raconte qu'elle a été à la messe de minuit, où elle a reçu le Dieu fort et puissant. Elle nous dit un peu avant que elle était prisonnière, elle était comme en fait elle avait la sensibilité malade et qui fait que elle pouvait pas la moindre contrariété faisait qu'elle fondait en larmes et qu'elle n'arrivait pas à faire autrement et qu'une fois qu'elle avait vu qu'elle avait fondu en larmes, ensuite elle pleurait d'avoir pleuré. Et que, je veux dire, elle n'était pas capable de faire autrement, vous comprenez, elle était prisonnière. Elle avait besoin d'être sauvée. Messe de minuit 86, elle revient à la maison, elle commence à monter l'escalier, elle entend son papa qui dit « Enfin, heureusement que c'est la dernière fois ». Oui, elle avait presque 14 ans et il trouvait que de la traiter comme une enfant de 6 ans, ça commençait à bien faire, quoi. Et là, Thérèse, elle entend. Et par contre, l'espace d'un instant, elle réalise qu'elle a maintenant la capacité de ne pas pleurer. Ce qui n'était pas le cas 2 heures avant. Elle a la capacité de ne pas pleurer et donc là, elle la met en œuvre. Elle dit « ravalant mes larmes ». On voit qu'il y a une décision de sa part. En ravalant ses larmes, en prenant cette décision, suivie des faits, de ravaler ses larmes, elle a accueilli le don de Dieu, le don du salut qui lui avait été fait à la messe de minuit. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'elle le comprend, qu'elle avait reçu le Dieu fort et puissant. Elle accueille le salut qui lui a été donné, sans du tout qu'elle s'en rende compte sur le moment, à la messe en communion. Elle a reçu le salut et maintenant il faut qu'elle dise oui. Et je pense que ce qui s'est passé au milieu de l'escalier des Buissonnets, l'espace d'un instant, ça a dû durer une demi-seconde. Mais en fait, c'est un truc gigantesque. La petite Thérèse, elle a dit oui au salut. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle commence, dit-elle, une course de géant. Là, on est en plein dans la vie chrétienne. Le Seigneur nous donne son salut et après, il faut que je le mette en œuvre, que je dise oui. Je reviens à mettre comment, ça sera ma conclusion, je reviens à, donc dans ma vie. Pour l'instant, je vous ai parlé de l'oraison, du temps d'oraison, de la place centrale du Christ. Et là, vraiment, je veux essayer, vous verrez. Moi, je vous dis, écoutez, essayez. Vous mettez Jésus, Jésus, Jésus. Vous allez voir les effets. Après, vous allez être convaincu d'expérience. Vous allez plus changer. L'oraison, Jésus. Et en dehors du temps d'oraison, parce que si croire pour aimer, c'est le cœur de ma vie, il ne faut pas perdre un instant. Alors la première chose, c'est justement l'exercice de la présence de Dieu. Donc là, vous comprenez, l'exercice de la présence de Jésus. Passer toutes nos journées, sans se rompre la tête, mais quand on y pense, à un petit regard vers Jésus. Je ne peux pas poser un petit regard intérieur vers Jésus sans que tout ce que je vous dis, j'ouvre la porte au Seigneur qui vient en moi, etc., et qui me transforme, qui me donne son salut, sans que tout que je vous dise se passe. L'exercice de la présence de Jésus. Alors là, l'expérience de Sainte Thérèse. Quelques moyens concrets. Thérèse, quand elle fonde un couvent, en général, juste avant de fonder, il lui reste l'équivalent de peut-être 50 francs. Et qu'est-ce qu'elle fait avec les 50 francs ? Est-ce qu'elle va acheter, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait acheter. Ce qu'elle achète, elle achète des tableaux. Des tableaux, inutile de vous dire que quand elle achète 2 tableaux pour 50 francs, elle n'achète pas franchement des Rembrandt ou voilà. Mais elle va au marché, parce qu'au XVIe siècle, sur les marchés, il y avait tout un rayon, toute une partie pour les œuvres d'art. Et elle achète 2 tableaux religieux, mettant en général avec Jésus, qui représente Jésus. Bon, pour les 50 francs, elle ne peut pas demander des super œuvres d'art, mais elle demande des trucs qui soient un peu émouvants, qui donnent envie d'aimer Jésus, qui donnent envie d'aimer Jésus. Et dans ces fondations, qui sont hyper pauvres, hyper petits, quand vous allez à l'intérieur de Saint-Joseph-d'Avila, c'est vraiment minuscule. C'est minuscule, mais vous remarquez 2 choses. La première chose, c'est que c'est hyper propre. Alors là, vraiment, vous êtes épaté et vous vous dites « Oh là là, mon office de ménage, où j'en suis ?» Et surtout, la deuxième chose que vous remarquez, et même que vous remarquez avant, c'est qu'il y a des tableaux partout. Il y a des représentations de Jésus partout. Vous ne pouvez pas tourner la tête sans tomber en face de Jésus. Et c'est ce que nous dit Thérèse au chemin de perfection. Je voudrais que partout où je pose mon regard, je trouve son image. Et donc ça, c'est pour nous, chez vous. Pourquoi vous ne mettriez pas, vous ne multiplieriez pas un peu les images, des petits trucs qui vous aident à penser à Jésus et qu'il faut un peu changer de temps en temps, parce qu'après, on s'habitue et on ne les remarque plus. Hein ? Bon, sans que ça devienne l'objectif de votre vie, vous passez votre temps à changer vos images. Là, ça s'appelle de la perte de temps, hein, de la gourmandise spirituelle. Mais vous mettez, voilà, que moi, je trouve que c'est normal que dans une maison de chrétiens, il y ait Jésus dans toutes les pièces. Ça me paraît, si c'est le cœur de notre vie, bah, ça me paraît le minimum. Hein. Et vous mettez des images de Jésus. Le but de ces images de Jésus, ce n'est pas qu'elles soient artistiques, mais c'est qu'elle vous le fasse aimer, donc à votre propre goût. Alors là, sans scrupule, parce que moi, un truc qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, alors elle aussi, elle voulait Jésus partout. Jésus, la Sainte Vierge, bon. Et vous savez ce qui donnait de la dévotion à Mère Teresa? C'était les statues de Notre-Dame de Lourdes fluorescentes. Les statues de Notre-Dame de Lourdes fluorescentes. Voilà. Et donc, vous ne dites pas, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser? Oh là là, mais c'est kitsch, mais c'est machin. Ben, si c'est ça qui vous donne de, si c'est ça qui vous donne de la dévotion, aucun souci. Hein? Moi, ce qui me donne de la dévotion, vous savez ce que c'est? C'est les statues baroques espagnoles. Plus c'est doré, plus c'est fleuri, plus j'aime. Et plus ça me donne de la dévotion. Bon, voilà. Je sais que dans mes frères, je pense que je suis un peu le seul de ce modèle-là. Hein? Bon, ben voilà. Très bien, j'assume. Bien. La présence de Jésus. Et le dernier point sur lequel je conclurai donc, c'est l'exercice des vertus. La relation avec quelqu'un, ce n'est pas d'abord un exercice cérébral. L'amour se montre en acte. L'amour se montre en acte. Quand vous aimez, quand vous essayez de faire votre devoir d'État, donné par Jésus, par amour de Jésus, même si vous ne pensez pas beaucoup à lui parce que vous êtes tellement pris, enfin vous avez les soucis de votre devoir d'État qui sont là, eh bien, en fait, si vous le faites pour Jésus, vous êtes en plein là-dedans. Et vous êtes en plein là-dedans encore plus que dans la prière. Faire la volonté, ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur », c'est ce qu'on dit dans la prière, hein, qu'on fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est en faisant sa volonté concrètement, en servant nos frères, en faisant notre devoir d'État. Ce que Thérèse appelle l'exercice des vertus, concret, l'amour du prochain, concret. Alors, vous n'allez pas m'opposer ça à la prière, parce que vous ne pourrez pas aimer, c'est trop dur, on ne peut pas aimer concrètement notre prochain si on ne recharge pas nos batteries, si on ne prend pas des temps avec l'ami. Et notre Jésus, il ne veut pas qu'on soit tout le temps à travailler 24 heures sur 24. De temps en temps, il nous dit, bah, écoute, stop, hein, je t'invite à boire le thé avec moi. Hein. Repose-toi donc un peu en moi. Vous pouvez prendre, hein, dans la Bible, le nombre de fois où le Seigneur, il invite, hein, ses disciples à se reposer. Venez avec moi à l'écart et reposez-vous un peu. Marc 6, 31. Hein. C'est mon verset préféré de l'Évangile. Revenez avec moi à l'écart et reposez-vous un peu. Voilà ce qu'il nous dit. Alors, eh ben, pendant ce pèlerinage, le Seigneur nous a invités à venir avec lui à l'écart, à Lourdes, hein, à nous reposer un peu. Accueillons ce repos que le Seigneur nous donne, dans lequel il peut nous recréer, nous donner sa vie. Amen.